Grande joie pour moi de vous retrouver après pas mal de mois. Je suis très heureux de retrouver Caroline, là, qui nous vient d'Allemagne et d'Australie et tout cela. Ça fait vraiment plaisir. J'ai rencontré une jeune chrétienne, j'ai encore oublié son prénom, là, dans une église à Maison Alfort, là, ce mercredi soir, où j'étais invité pour une série d'études systématiques sur l'Épître aux Éphésiens. Alors elle m'a dit « Oh, mais je vous connais, j'étais il y a 8 ans au culte ici, dans le temple luthérien. » Alors je lui ai dit « Oui, ton visage me dit quelque chose. » Bon, vous demanderez à Caroline, elle connaît son prénom par cœur. Alors ça m'a préparé pour aujourd'hui, et puis ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir, et je suis très heureux de vous retrouver. Entre-temps, j'étais au Québec tout le mois d'octobre, et puis je suis rentré sur la France, j'ai passé une nuit chez moi, je suis reparti le lendemain matin pour l'île de la Réunion. Donc je suis passé de moins 6 heures à plus 3 heures, j'avais 9 heures de décalage et j'ai découvert l'île de la Réunion avec beaucoup de frères et sœurs asiatiques, des belles églises chinoises et j'ai fait pas mal le tour de l'île de la Réunion pour annoncer l'évangile et enseigner la parole du Seigneur. Et ça a tellement bien été qu'ils m'ont dit « Jean, reviens en juillet 2013 et reviens avec une équipe ». Alors on est en train de mettre au point tout un voyage avec des jeunes de l'église à laquelle je dépends. Et puis voilà, on va aller faire de l'évangélisation là-bas. Mais j'ai été reçu comme au milieu de vous, avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, et c'est par ses frères et sœurs asiatique, c'était vraiment très très agréable. Et ça tombe bien parce que nous allons parler cet après-midi de la bénédiction du livre des nombres. Alors avec moi, la Bible que j'ai, c'est ma Bible de mariage, hein, la Bible de mariage qui nous a été offerte à mon épouse et à moi-même, donc le 16 septembre 1972, vous voyez, ça commence à faire. On rentre dans notre 40e année de mariage avec donc Annie, qui va bien, qui est heureuse, et encore, je regardais son visage tout à l'heure, elle était en train de parler avec une chrétienne, et je me disais, quand même chouette ma femme, elle sourit, elle n'a pas changé quoi. Vous savez, il y a quelque chose de permanent qui est remarquable. Mais je regardais les versets que nous avions choisis pour la naissance de nos 4 enfants. Alors le 25 mars 1974, c'est Samuel Olivier qui est né, et bien entendu, comme on avait eu bien du mal à l'obtenir, nous avions pris un Samuel, chapitre 1, verset 20. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et Dieu sait si nous l'avons demandé à l'Éternel, celui-là. Alors Samuel, c'est un homme, aujourd'hui, il est marié, il a un enfant, et j'étais avec lui ce matin dans l'église, et il est au Seigneur, il est responsable de différentes choses dans l'église, c'est un vrai bonheur. Il est marié avec une chrétienne vivante et engagée. Et alors on est en train, avec mon épouse, de prier pour le petit-fils, avant qu'il naisse, maintenant qu'il est là. Il est charmant comme tout, il se prénomme Manoah, et donc il porte, dans son nom, il y a le mot de repos. Et il va donner du repos à ses parents, mais j'espère qu'il va donner du repos aux hommes et aux femmes qu'il va rencontrer pendant son existence terrestre, en leur présentant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis le 11 novembre 1975 est né Thomas Nathanaël. Alors lui, on avait pris le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et Thomas a toujours été attentif à la volonté de Dieu. Et puis un jour, il a rencontré une magnifique jeune femme chrétienne, et donc ils se sont mariés, maintenant ils ont 2 enfants. Et nous étions chez eux il y a quelques semaines, et je me disais, c'est quand même extraordinaire ces versets que nous avons choisis. Thomas a fait de l'Éternel ses délices, et Dieu lui a donné ce que son cœur désirait, parce que quand on fait de l'Éternel ses délices, ce qui anime nos pensées, nos cœurs, nos âmes, c'est la volonté de Dieu. On ne peut que penser en fonction de Dieu, et donc Dieu lui a donné une charmante jeune femme, qui est une femme maintenant, et vraiment c'est chouette d'être avec eux et de voir leurs enfants. Puis ensuite est arrivé le troisième, 14 janvier 78, Matthieu avec 2 T comme l'évangéliste, suivi du prénom Nicolas. Et lui, c'était le psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. C'était le troisième garçon. Alors, comme les deux précédents, Matthieu est très engagé aussi pour le Seigneur, et il fait des tas de choses, et c'est un évangéliste. J'espère un jour qu'il pourra venir ici accompagner les cantiques, parce qu'il joue de la trompette, il joue du piano, il est directeur de chœur, et on a une chorale de 50 personnes que Dieu utilise, que des gens de nation, hein, de notre église, que Dieu utilise. Et ce matin, on avait un pasteur de Chalon-sur-Marne, un Américain, Don Marshall, qui nous disait combien Dieu les avait encouragés et nous a donc, nous aussi, le Seigneur, encouragés, parce qu'il a dit, vous êtes venus à notre aide, et il a dit, en 33 ans de ministère, jamais je n'avais dû refuser des non-chrétiens à des réunions, parce qu'il a dit, il y a eu tellement de personnes qui sont venues voir la chorale, que dans la même après-midi, ou dans le même après-midi, oui, une après-midi, ils ont fait deux concerts parce qu'ils avaient refusé 250 personnes. Et l'église est bouleversée là-bas avec des conversions parce que Dieu a permis que dans cette province et cette ville de Chalon-sur-Marne, eh bien, des hommes et des femmes soient touchés par l'évangile. Et il nous disait ce matin combien d'hommes et de femmes, une vingtaine m'a dit, sont venus me dire, des non-chrétiens, me dire enfin avec cette espèce de Matthieu là, on a compris le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, on a compris l'importance d'être sauvé, etc. Il est sympa, Matthieu. Et avec Annie, on a prié pour les Samuel, Thomas, Matthieu, évidemment. Et puis, nous sommes bien heureux de les voir au Seigneur et être utilisés par Dieu. Puis enfin, est arrivé le 23 juin 1980, à 9h du matin, Lydie, notre fille, Lydie, deuxième prénom Marie, et nous avons avec mon épouse convenu de prendre cette bénédiction du livre des Nombres, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors Lydie, c'est comme les trois autres, j'allais dire c'est une merveille, oui c'est une merveille, oui. Et donc elle a une trentaine d'années là, 80, elle a 32 ans, hein. Et elle est mariée, trois enfants, et très engagée aussi pour le Seigneur, très douce comme vous mes sœurs, très fine, beaucoup d'humour, mais aimant le Seigneur de tout son cœur. Et là on voit l'importance de la bénédiction. Et si Dieu a donné une bénédiction particulière en donnant les mots, les phrases hein, en hébreu à Moïse pour qu'il la transmette à Aaron, puis à Aaron qu'il la transmette à ses fils pour que le peuple soit béni, ce n'est pas sans raison, car vous et moi, nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur. Alors ma page a tourné, voilà. Alors dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire bénir ? Traditionnellement, si vous demandez à des non-chrétiens, ils vont vous dire, bénir quelqu'un, c'est souhaiter que les choses aillent bien pour lui. Ah, moi, j'ai plein de copains non-chrétiens qui me disent, oh Jean, bénis-nous, qu'on puisse gagner au jeu, qu'on puisse... Alors, je leur dis, attendez, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais, quoique, un jour, j'ai prié pour un gars pour un concours international, il est arrivé deuxième, hein. Et il n'a pas oublié, hein. Chaque fois qu'on se croise hein, dans la vie, il me dit ouais, pas oublié, j'ai dit t'es encore pas au Seigneur toi après ce qu'il a fait pour toi. Ouais, j'oublie pas. Il était lauréat du Grand Prix de Rome, hein. C'est donc un an tout frais payé à la Villa Médicis à Rome pour développer ses connaissances. Lui il était photographe et puis un petit peu architecte parce qu'il créait il faisait des photographies, puis il rajoutait sur l'épreuve de photo, il rajoutait en relief du cartonnage, enfin il faisait toutes sortes de montages, c'est un véritable artiste, pas facile à faire travailler, mais doué quoi. Et Dieu l'a béni, fils d'une famille de protestants, hein, donc il y avait des racines quand même. Hein. Mais la dernière fois que je l'ai vu, bon, il n'était pas encore au Seigneur. Mais il n'oublie pas la grâce de Dieu. Donc, bénir, c'est donc souhaiter que les choses aillent bien pour lui ou qu'il reçoive l'aide nécessaire à ce qu'il a à faire. En hébreu, bénir, ça se prononce barak. Hein, vous connaissez ce nom, fameux nom dans le Nouveau dans l'Ancien Testament, Barak, c'est quelque chose. Hein. Et pour l'hébreu, pour un hébreu, Barak, ça contient l'idée qu'au centre de la vie d'une personne, lui a été conférée la force. Hein, quand un hébreu regardait un autre hébreu, et comme nous quand on regarde un frère ou une sœur en Christ qui est un modèle, qui est enthousiaste et qui nous fait du bien, on se dit « Oh mais il a un truc celui-là, Dieu est là quoi, au centre de sa vie hein. ». Moi si je regarde certaines sœurs, certains frères dans l'église où je suis ou ailleurs quand je voyage, je peux vous dire qu'il y en a qui me font cet effet-là, hein. Je me dis « Ah ça fait du bien, ils sont bénis ». Et quand je vous regarde, c'est la même chose hein. Après tout, notre bien-aimé qui est arrivé, là, il me dit « Ah, j'ai trouvé une place juste devant l'église, là ah, !» Je lui ai dit « T'es béni, mon frère, parce que ça, c'est une sacrée bénédiction dans le 13e, hein !» Et puis, je sais qu'il est béni à d'autres niveaux, à des niveaux spirituels, hein, par son engagement, son service pour le Seigneur. Et puis, permets-moi de te citer, Caroline, quand je te regarde, parce que je vous citerai d'autres, mais j'ai pas vos prénoms, mais vous trois, là, quand je vous regarde, vous chantez et tout, je me dis, ça, là, des jeunes femmes bénies, hein, qui aiment le Seigneur, qui veulent aller de l'avant. Et donc, parce que le Seigneur est au centre de nos vies. Alors, je m'excuse, mais pour les jeunes gens, pour les hommes, c'est pareil. Hein. Ce que je dis aux jeunes femmes, je le pense aussi de vous, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, on voit tout de suite si quelqu'un a Dieu au centre de sa vie ou pas. Ça se voit, ça se sent, ça se remarque. Hein. Et donc, cette force, cette présence du Saint-Esprit, d'où émane la plénitude de vie. Ah, un chrétien, là, vous savez ce que c'est qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui est enthousiaste, hein, et en grec, enthousiaste, c'est littéralement un Dieu en lui, quoi. Et c'est vrai que chrétien, bah, il est habité par le Seigneur, et c'est cette présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui fait que véritablement nous sommes bénis et que Dieu est là au centre de notre vie. Et puis cette présence nous rend capable, la personne qui est habitée, rend capable d'accomplir une grande variété de tâches. C'est pour ça que vous faites beaucoup de choses pour le Seigneur. Vous faites beaucoup de choses pour le Seigneur, hein? Rassurez-moi. Ah, bon, bien. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu. C'est pas n'importe quoi, cela. Et on peut dire que bénir, dans le fond, la signification globale, c'est placer quelqu'un sous la grâce de Dieu. Vous savez, quand on se croise au culte, à la fin du culte, ou dans l'église en semaine, vous êtes à l'église en semaine? Il y a des réunions en semaine chez vous? Le samedi? Ok. Donc au groupe de jeunes ou autres, bah, si vous prononcez une formule de bénédiction, vous placez la personne sous la grâce de Dieu. Quand je dis à un non-chrétien que Dieu te bénisse, qu'est-ce que je suis en train de lui dire, même s'il ne comprend pas bien ce que ça veut dire? Je suis en train de lui dire, j'espère que Dieu va te donner une révélation de Christ. Parce que toutes les bénédictions que l'on reçoit, c'est grâce à la personne de Jésus-Christ, c'est en Christ, comme le dit si bien l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1. C'est en Christ, en lui, dans le bien-aimé, enfin dans le bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, que toutes les bénédictions nous sont accordées. Et que nous avons tout pleinement. Alors quand je dis à un non-chrétien que Dieu te bénisse, ce n'est pas une formule creuse. Hein. C'est une prière, je dis, oh Seigneur, mais sauve-le celui-là, révèle-toi à lui. Mais quand je dis ça à un chrétien né de nouveau, c'est pour qu'il y ait un surcroît de bénédiction sur cette personne. Et pas toujours systématiquement matériel, hein, comme nous allons le voir. Ça peut être le cas. Mais on peut être richement béni en étant dans l'épreuve, comme nos frères et sœurs dans certains pays où ils sont persécutés. Et vous en savez quelque chose pour votre propre pays ou les pays alentour, où les chrétiens aux côtés du vôtre, limitrophes du vôtre, ont été persécutés. Donc il ne s'agit donc pas d'une transmission de pouvoir que des personnes spécialement autorisées seraient capables d'accomplir. Vous savez, dans la tradition classique, on se dit c'est un prêtre qui doit me bénir, c'est un pasteur qui doit me bénir. Moi, il y en a, ce matin, quelqu'un m'a dit oh, « Pasteur Jean, bénissez-moi ». J'ai dit « Attendez, il peut vous bénir, elle aussi mais... ». Donc vous voyez, parce que je ne veux pas non plus qu'on me mette à un endroit où je n'ai pas à être. Quoi. Alors dans ces cas-là, je dis « Mais attendez, alors... » Mais vous et moi, nous pouvons bénir quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que c'est toujours Dieu qui bénit. C'est pas celui qui prononce la formule ou qui prononce la phrase. C'est Dieu qui bénit. Donc n'importe lequel d'entre nous, en désirant que voir la gloire de Dieu chez quelqu'un, qu'il soit perdu ou qu'il soit sauvé, eh bien automatiquement vous invoquez le nom de Dieu sur la personne. Et à ce titre, vous pouvez, comme nous allons le voir, transmettre des bénédictions. Il n'y a pas que les prêtres qui ont le pouvoir de bénir, hein, les prêtres dans le sens large du terme, prêtres catholiques, pasteurs protestants ou autres, ou évangéliques, enfin, que sais-je. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des parents bénir leurs enfants. Isaac dit à Ésaü, va, prépare-moi un mec, que je puisse te bénir. Puis Rebecca, elle entend ça, puis elle va aller chercher Jacob pour qu'il puisse obtenir la bénédiction. Hein. Mais voyez, c'est pas Moïse n'était pas encore là. Et la bénédiction, elle, existait, la formule de bénédiction aussi. Il y a des enfants qui bénissent leurs parents. Par exemple, en Proverbe, chapitre 30, verset 11, il est dit, « Il est une race qui maudit son père et une qui ne bénit point sa mère. » Et donc, les enfants devraient bénir leurs parents dans leur cœur, dans leur âme, pas seulement en obéissance, qui est déjà une belle bénédiction pour les parents, mais verbalement. Dans nos prières, dans nos cœurs, bénir nos parents. Parce que c'est possible. Et puis, il y a des rois qui bénissent, qui vont bénir leur sujet. Hein, quand en 2 Samuel chapitre 6, verset 18, David a béni le peuple. Donc, on voit que la bénédiction est réservée à un ensemble de personnes. Et puis, les façons de bénir sont très variées. On peut bénir en imposant les mains, comme on le voit en Genèse 48. Où Isaac, qu'est-ce que je raconte moi, Jacob bénit ses enfants qui vont former les 12 tribus d'Israël. Hein. Il bénit chacun, il y a toute la liste des bénédictions, hein, c'est pas n'importe quoi. Vous savez, il y a un ami qui nous expliquait qu'il avait une famille juive qui est comme voisin. Et alors, des fois, il voyait que la dame, avec ses 4 enfants, quand elle revenait des courses, avec son cabas plein de nourriture, eh bien, avant de rentrer dans la maison, elle mettait la main sur la mezouat, vous savez, les lois, les 10 commandements, la Torah. Hein. Vous savez, sur les familles juives, hein, sur le montant de leur porte, à l'extérieur, sur le palier, si vous avez une famille juive comme voisin, vous allez voir, ils vont clouer, une mezouat s'appelle, hein. Et là, ils touchent. Ils ne rentrent pas dans la maison, ils ne mettent même pas la clé dans la porte. Ils touchent d'abord. Ils prononcent une formule, une prière. Et ensuite, il dit, je la voyais à chaque fois qu'elle rentrait chez elle. Hein. Elle ne rentrait pas sans toucher, donc la mezouah. Et elle reposait sur la tête des 4 enfants à chaque fois. Elle prononçait une formule de bénédiction. Et ensuite, ils rentraient dans la maison. Alors, c'est une pratique. Mais vous comprenez que ce que ça sous-tend quand même d'être conscient du besoin de la bénédiction de Dieu. Et ça se traduit par des gestes. Ça peut devenir mécanique, je vous l'accorde. Mais pour nous qui aimons le Seigneur et qui aimons les choses de Dieu, c'est beau. Je trouve ça beau, c'est de marquer le pas. Nous avons eu, ma femme et moi, des voisins, familles juives là, d'Afrique du Nord, donc des séfarades. Et c'était assez particulier de voir comment ils vivaient. Et eux aussi, ils avaient la mezouah, et donc ils touchaient le montant de la porte. Et c'est donc les formes extérieures ont donc très peu d'importance. Et aujourd'hui, on se rend compte que les chrétiens, les croyants, bénissent surtout à travers la prière. Si on prend des références comme Matthieu 5, 44, ou Luc 6, 28, ou Romains 12, 14, que j'ai nommé, que j'ai écrit, il y a marqué « Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, ne maudissez pas. » Et dans le sermon sur la montagne, Jésus va le dire aussi. « Bénissez vos ennemis. Dites bonjour à ceux qui vous méprisent. » Qu'est-ce qui vous revient ? Quelle gloire vous avez à dire bonjour à quelqu'un qui vous dit bonjour ? Bon, ok. Vous pouvez me dire bonjour, moi je vous fais pas de mal. Mais quelle gloire on a ! On a du plaisir, mais aller vers l'adversaire et lui dire bonjour, c'est quelque chose. Hein. Et en Nombre 6:23, il est intéressant par le fait qu'aucune forme de bénédiction n'est prescrite. Dieu donne la formule, les phrases à prononcer, mais pas l'attitude, la façon de faire et comment est-ce qu'on va être, etc. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette bénédiction ? Eh bien, chaque verset, il contient le nom de l'Éternel, hein, parmi ces trois versets. Et il y a deux éléments de bénédiction dans chaque formule. Et chacun est plus long que le précédent. En hébreu, le verset 24, il a trois mots, le verset 25, cinq mots, le verset 26, sept mots. Alors, je ne suis pas en train de faire d'analyse kabbalistique, hein, mais c'est simplement, c'est intéressant de voir l'amplification de la bénédiction. Et cette bénédiction, elle était sans doute prononcée chaque matin à l'issue du service, du service qu'on rendait à l'époque dans le tabernacle. La bénédiction que les serviteurs de Dieu doivent prononcer dans le cadre de l'Ancien Testament, ce n'est pas une formule magique. C'est une promesse de Dieu qui agit lorsqu'elle est saisie par la foi. Si moi je crois que Dieu va me bénir, ben oui, là, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque j'étais non-chrétien et que j'ai voulu être sauvé, j'ai pris cette décision après avoir été informé. J'ai dit « Seigneur, je veux être sauvé ». Et pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé ? Ben parce que en disant « Seigneur, je veux être sauvé », je me rendais compte qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et j'y croyais. J'avais eu tellement de témoignages de non-chrétiens, j'avais lu la parole de Dieu, on m'avait expliqué les choses, et je m'étais dit, comme dit le verset de l'Épître aux Hébreux, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est donc ça, la confiance, se dire « oui ». Dieu va agir. Alors, je n'étais pas encore sauvé, mais je me disais, certainement, il ne peut pas faire autrement, il l'a promis. Donc, sans m'en rendre compte, j'avais quelque part déjà la foi. C'est assez curieux pour ce verset dans l'Épître aux Corinthiens. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça veut dire que quand les gens sont sauvés, ils ont commencé à croire. Parce qu'il faut commencer à croire pour être sauvé. Parce qu'être sauvé, ce n'est pas croire, hein. Né de nouveau, la nouvelle naissance, la régénération, c'est autre chose qu'une simple croyance. Hein. Comme dira l'apôtre Jacques, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi, ils tremblent. Ça, c'est pas le salut. Mais il faut bien commencer à croire pour accéder au salut, croire que Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. C'est pour ça que Paul va dire, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc avant d'être né de nouveau, vous avez cru. Et moi aussi. Et donc, du coup, on continue de croire et on est béni. Vous voyez, c'est un mouvement naturel. Dans le fond, c'est Dieu personnellement qui veut bénir les créatures que nous sommes. C'est-à-dire, il veut mettre son nom sur ceux qui acceptent cette bénédiction. C'est un petit peu comme quand vous achetez un livre, on inscrit son nom sur un livre, hein, parce qu'on est appelé à le prêter, etc. On inscrit son nom. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il m'appartient. Oh, je te le prête, mais n'oublie pas, il est à moi, il n'est pas à toi. Okay. Il y a plein de choses où on inscrit quelque part une marque, une trace, parce que c'est à nous. Quoi. Et bien Dieu, c'est ça, quand il veut bénir quelqu'un, c'est qu'il veut imprimer quelque chose sur la personne. Et Dieu, il imprime des valeurs spirituelles, hein, des actions spirituelles dans l'esprit et l'âme de ses créatures. Et c'est donc par la parole de bénédiction que Dieu inscrit son nom sur ceux qui lui appartiennent. Pourquoi les Saintes Écritures disent que notre nom est inscrit dans le livre de vie ? Parce que Dieu nous a bénis en Christ. Il nous a inscrit sur ses mains quelque chose. C'est marrant que j'ai noté ça. La bénédiction prononcée à la fin du culte, c'est le pont, vers la vie quotidienne. Moi, je viens d'une église où on ne bénit pas particulièrement. On n'a pas systématiquement une formule de bénédiction, comme ici dans les églises luthériennes, où ça fait partie de la liturgie luthérienne. Hein. ou de la liturgie catholique, selon. Mais c'est vrai, quand on fait une prière, la prière finale pour le culte, une forme de bénédiction. On n'appelle pas ça la bénédiction, on dit « frère, veux-tu prier pour clore le culte ?» Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Donc la première bénédiction était tout d'abord une bénédiction matérielle. Alors je reviens à mon texte, vous l'avez sous les yeux ?« Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » Donc que l'Éternel te bénisse, c'était dans le sens matériel du terme, parce qu'Israël était un peuple d'agriculteurs. La bénédiction signifiait pour lui la fécondité des champs et des troupeaux, mais aussi avoir beaucoup d'enfants. Dieu veut donc en même temps nous protéger des différents dangers de la vie. Quand il dit que Dieu te bénisse et qu'il te garde, c'est qu'il t'enrichisse quelque part, et en même temps qu'il te protège, protège de la mort, protège des accidents, protège des maladies, enfin, etc. Évidemment que nous, on y voit une dimension spirituelle, parce qu'il n'y a rien que Dieu ne fasse sans qu'il y ait une dimension spirituelle. Une bénédiction matérielle, il y a une raison spirituelle. J'ose espérer que vous faites comme l'ensemble des chrétiens. Quand on reçoit une bénédiction matérielle, la première question qu'on se pose, c'est « Est-ce que tout est pour moi ?» Avec qui est-ce que je vais pouvoir partager quelque chose que j'ai ? Ma maison, ma voiture, ça ne m'appartient pas qu'à moi. Je suis amené à prêter, à permettre à certains d'en profiter, etc. Vous voyez, il y a une dimension spirituelle. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on a aussi besoin d'être béni matériellement, quoi. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Mais dans toute bénédiction, il y a une dimension spirituelle. D'ailleurs, dans tout ce que Dieu dit, il y a une dimension spirituelle. Dans la cuisine juive, la cacheroute, c'est des normes alimentaires, de santé publique, mais c'est spirituel, c'est la séparation de certaines choses avec d'autres. C'est donc la notion de séparation. C'est qu'on ne vit pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne pense pas n'importe quoi quand on est chrétien. Ça va ? L'heure passe vite chez vous. Ensuite, au verset 25, il est question de « que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce ». La face de Dieu, c'est sa personne. C'est donc sa personne elle-même se mettant en rapport avec l'homme. Le terme de « faire luire », ça indique la bienveillance du regard divin qui enveloppe la créature, enfin celui qui se tourne vers Dieu, comme une lumière descendant du ciel peut envelopper celui qui en est l'objet. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous promener et puis il y a des nuages, puis d'un seul coup, il y a le rayon du soleil qui vient vous toucher, vous, hein, parce que vous êtes dans l'angle où le nuage commence à disparaître, le soleil apparaît, puis ensuite la lumière s'étend. Mais vous avez d'abord touché vous. Et c'est un peu ça, là, que Dieu fasse luire sa face sur toi. Ça veut dire Dieu va nous toucher, va nous envelopper de sa présence. On va ressentir quelque chose. Une sécurité, une paix. Et c'est pour ça qu'il est dit, donc, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'est-ce que c'est que l'effet de ce regard bienveillant ? C'est indiqué dans la seconde moitié du verset par le terme de faire grâce. Quand Dieu nous enveloppe de sa lumière, c'est pour nous faire grâce. C'est pas pour nous écraser, pour nous accuser, c'est pour nous faire grâce. Alors, en nous faisant grâce, il peut nous dire certaines choses. Il peut nous dire, écoute, là, ça, voilà, c'est pas terrible, change ça, enfin, etc. Vous connaissez la relation avec Dieu. Mais quand Dieu se présente, c'est toujours pour nous faire grandir, pour nous transformer, pour nous rendre semblables à son image, c'est pas pour nous écraser. Comme le roi soleil, hein, pour les Français, Louis XIV, qui, toute sa prestance, voulait écraser tout le monde, là, le roi soleil. Non, Dieu, qui est le roi des rois, lui, il s'approche pour nous faire grâce. Et donc, ce faire grâce, il indique le don du salut. Même pour un juif, il avait besoin d'offrir ses sacrifices pour être en communion avec son Créateur. Et évidemment, le don de la grâce, c'est spécialement le pardon des péchés. Encore ce matin, j'écoutais les prières des sœurs et des frères, et quelqu'un a dit: Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as pardonné de tous mes péchés, tu m'as purifié. Vous savez, ah, quand vous entendez ça, ça fait plaisir. On voit, et alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi je regarde les visages quand les sœurs et frères y prient, parce que les visages, ils s'illuminent. Et quand ils énoncent des vérités spirituelles, les gens ils se rendent pas compte, hein, ils ont les yeux fermés, ça. Mais moi je regarde, puis je trouve ça beau, parce que c'est l'âme qui transperce là, malgré que le regard soit les paupières fermées, hein, que le regard étant la fenêtre de l'âme. Mais même les yeux fermés, il y a quelque chose qui se produit sur le visage, comme Moïse qui descendait de la montagne, hein, qui était tout illuminé, qui met un voile. Alors là, on contemple la gloire de Dieu. Donc moi je suis un scrutateur, j'aime ça, observer ce que Dieu fait dans la vie des gens. Donc Dieu s'approche de celui qu'il bénit. Son visage rayonne comme le soleil, et qui nous inonde de sa lumière, de sa chaleur et de sa vie. Dieu rayonne, il fait luire hein, sur toi, il t'accorde sa grâce. Et en hébreu, dans le mot grâce, il contient l'idée de s'abaisser. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'approche du haut des cieux, de sa gloire éternelle. Il s'approche de ses créatures. La grâce de Dieu, elle s'abaisse jusqu'à nous et nous accorde ses dons, sa paix et la communion avec lui. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui lui-même s'est abaissé, s'est dépouillé. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean a pu dire dans son évangile, Moïse nous a donné la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et puis pour terminer, au verset 26, merci, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La proximité est encore plus directe. Si vous tournez votre face vers quelqu'un qui vous voulez vous adresser, vous allez tout de suite attirer son attention. Maintenant, si vous parlez à quelqu'un en détournant votre visage, vous détournez de quelqu'un, l'autre il va dire « Oh, regarde-moi là. Eh, oh. » Vous voyez ? Et là, Dieu, il se tourne vers nous. C'est-à-dire, il s'approche, il se rend plus parfait, plus perceptible. Merci. Tourner son visage vers quelqu'un, c'est l'observer avec attention. C'est s'occuper de lui, dans le fond. Si moi, je veux m'occuper de quelqu'un, et je vais le regarder, je vais regarder la personne. Et c'est ce que Dieu fait, il nous regarde, il s'approche, il scrute. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour nous. On n'est pas des numéros pour Dieu, Dieu n'est pas indifférent, au contraire, il a la capacité d'englober tout le monde, et chacun en particulier. Et de s'intéresser à chacun en particulier tout en s'intéressant à tous les autres en même temps. Mais Dieu, il est comme ça, il n'a pas de limite, lui. Donc il sait faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Il s'occupe de tout le monde et d'une manière personnalisée et il est tout entier présent pour tout le monde en même temps. Il est tout entier présent ici, il est tout entier présent à l'autre bout du monde. Il est tout entier présent là où on ne peut pas accéder pour le moment. Où nous accéderons quand nous serons rendus semblables à lui, dans l'univers. Ça, c'est Dieu, notre Dieu. Le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui lève son visage prend l'autre en compte et en fait l'objet de sa vigilance. Et dans la bénédiction qui est prononcée, ça veut dire que Dieu te regarde en permanence, soit avec toi en permanence. Alors ceux qui ne sont pas sauvés, ils ont peur. Oh là là, ils fuient Dieu, ils fuient la lumière, comme dit l'évangile de Jean, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais nous qui sommes sauvés, on vient à la lumière et on dit « Seigneur, éclaire-moi encore et encore, viens. » Cela signifie aussi qu'il nous regarde avec plaisir et faveur et qu'il est donc aimable envers chacun d'entre nous. D'où la traduction parfois « Que l'Éternel veille sur toi. » Hein, au lieu de « Qu'il te donne la paix », c'est « Que l'Éternel veille sur toi ». Cette traduction qu'on peut trouver dans certaines Bibles éditions. Qu'il te donne la paix pourrait aussi se traduire par qu'il crée ou recrée pour toi la paix. Et des fois, on peut perdre sa paix, non pas son salut, mais sa paix. Et qu'est-ce qui... Vous avez déjà perdu votre paix, puis Dieu vous a enlevé l'angoisse et il l'a changé par sa présence, par sa tranquillité. Et ce qui est intéressant, c'est que les rabbins ont interprété cette bénédiction en la rapportant au Messie. Très intéressant, quand on lit les commentaires rabbiniques, c'est qu'ils se sont dit, ça, il n'y a que le Messie qui peut réaliser ces trois versets. Et c'est vrai qu'il n'y a que lui qui le fait. Et nous sommes dans le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et vrai Messie. C'est effectivement en Jésus que cette promesse de bénédiction se réalise dans sa totalité. Il est notre paix, selon Éphésiens 2, verset 14. Et Jésus s'est probablement appuyé sur ce passage des Nombres. Lorsqu'il dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et effectivement, les rabbins ne se sont pas trompés quand ils ont interprété cette bénédiction comme étant réalisée par le Messie en personne. Que Dieu donc garde chacun d'entre nous. Et quand je serai appelé tout à l'heure pour la formule de bénédiction, eh bien, ce sont ces versets que je lirai, que je prononcerai simplement, afin que Dieu nous conduise les uns et les autres. Merci.